En tant qu'essayiste, j'ai toujours aimé écrire les livres que j'avais envie de lire. Bien que je n'ai pas à proprement parler écrit, mais plutôt composé ce volume, il ne fait pas exception au désir que j'avais de le voir rejoindre ma bibliothèque. Et c'est sans doute pourquoi j'en ai eu l'idée. Que semblable anthologie n'existe pas me semblait depuis toujours incompréhensible si l'on pense à l'immense intérêt de son sujet, les drogues, mais surtout la littérature et l'imaginaire des drogues, à savoir la somme d'expériences individuelles relatives à l'absorption de substances psychotropes enregistrées depuis que l'espèce humaine peuple la Terre. Cécile Guilbert est ce soir notre invitée à l'occasion de cette somme monumentale et magique intitulée « Écrit stupéfiant, drogue et littérature d'Omer à Wilsef ». Mais comme chaque soir, on commence en musique. Et comme c'est lundi, pour vous Cécile, mais pour nous toutes et pour nous tous, on va commencer par un tube sur lequel on aime beaucoup danser.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? To think I'd crumble, to think I'd lay down and die. Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Êtes-vous une survivante ou une vivante, Cécile Guilbert ?
Une vivante. Une vivante, je pense. Je pense que si vous me posez cette question...
Ben, c'est parce que j'ai lu la préface de votre livre.
Oui, mais bon, il faut pas trop dramatiser non plus cette préface.
Ah bah oui, mais bon, l'adolescence, ça n'a pas été facile.
L'adolescence, c'est l'âge des transgressions, donc... C'est vrai que j'ai pris des substances, mais bon, comme beaucoup d'adolescents dans les années 70, c'était pas non plus si terrible. Et puis j'en ai jamais consommé au point de me mettre, à mon avis, en danger. Même si rétrospectivement, on peut le penser. Donc je ne dirais pas que je suis une rescapée, voilà, de la drogue, comme des gens qui ont pris des drogues dures ou qui ont vraiment connu la dépendance, la souffrance liée à ça.
Mais vous racontez aussi une période que nous avons vécue, en tout cas notre génération et la vôtre, car vous êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est-à-dire ce moment précis où en France, quand on était jeune au lycée et qu'on fumait des pétards à la sortie des lycées, personne ne vous embêtait, et quand on n'en fumait pas, on était plutôt ostracisé.
Oui, c'est vrai, ça montre bien la sorte de banalisation qu'il y avait de cette chose qui était encore liée dans les années 70 à une forme de révolte, en fait. Et c'est ça qui me frappe, parce que je vois que les lycéens d'aujourd'hui, c'est une banalisation totale de fumer du hashish ou de l'herbe. On en parle tout le temps dans l'actualité. Mais en fait, c'est lié plutôt à une sorte de torpeur. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de très... qui est déconnecté, en fait, de nous, ce que nous cherchions à travers ça. En fait, on cherchait beaucoup plus la transgression, on cherchait beaucoup plus l'opposition à l'autorité, et c'était lié aussi à une forme de révolte, en tout cas dans mon cas, et peut-être aussi à un malaise, et peut-être aussi aux influences des autres, et peut-être à la littérature aussi.
Pendant les vacances, comme les jeunes filles bien élevées, vous alliez souvent chez votre grand-mère, et vous adoriez, je crois, votre grand-mère, mais quand même, la nuit, elles étaient longues, les nuits, donc vous preniez une substance que votre grand-mère avait réussi à identifier par son odeur.
Oui, c'était l'éther. Et je vous avoue que je ne sais plus exactement comment je suis tombée sur l'éther. À mon avis, je suis tombée sur l'éther en lisant des choses sur l'éther. Et l'éther était dans toutes les pharmacies familiales. Et j'ai dû, par curiosité, évidemment, aller voir ce qu'était l'éther. C'était très facile à trouver, c'était comme l'alcool à 90. Et un jour, effectivement, ma grand-mère, chez qui je passais des vacances et qui m'a en partie élevée, a détecté l'odeur d'éther, et ça a été une sorte de drame.
Vous dites que vous étiez en révolte. Oui, vous semblez avoir été en révolte. Les révoltes vont continuer et vont constituer même la trame de votre existence jusqu'à aujourd'hui, Cécile Guilbert. Mais il y a des révoltes qui se font contre l'autorité familiale. Mais vous... vous avez vécu dans une famille qui était plutôt tolérante, et quand vous êtes parti voir votre oncle et votre tante pour rejoindre des cousins, quand vous étiez au sommet de l'adolescence, au moment où on se croit tout permis, à l'âge des possibles, eh bien vous êtes tombé sur des parents extrêmement permissifs.
Oui, c'est vrai, c'est ce que je raconte, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ma mère était plutôt sévère avec moi, et ma grand-mère qui m'élevait en grande partie l'était très fortement, en fait. Et j'ai découvert, en allant passer chez des vacances chez des cousins, que je voyais de temps à autre, et mon cousin Emmanuel, dont je parle, avait quasiment mon âge, puisqu'il avait un mois d'écart avec moi. Et j'ai découvert, en fait, cette partie de la famille vivait au Baléares, et nous étions partis pour des vacances de Noël, comme ça, des petites vacances de Noël. Et je me suis rendu compte, à cet âge-là, donc cet âge de l'adolescence, qu'on commençait à fumer des cigarettes en cachette et à faire le mur et tout ça, que mes cousins, eux, vivaient d'une façon beaucoup plus libre, et leurs parents étaient beaucoup plus tolérants, et eux-mêmes étaient, sans doute c'était lié à leur âge et aussi à leur jeunesse, étaient aussi... tout ça, c'est des questions, j'aime pas trop parler en termes de génération, mais... il y a quand même un climat, un air du temps, quelque chose. Ils étaient venus vivre au Baléares aussi pour avoir un certain mode de vie, j'imagine. Donc, ils laissaient leurs enfants un peu faire ce qu'ils voulaient.
Et ça s'est terminé tragiquement.
Oui, ça s'est terminé tragiquement, pas au moment des vacances. Quoique au moment des vacances, nous avons fait pas mal de bêtises avec mes cousins. Mais par la suite, ça s'est terminé tragiquement puisque mon cousin s'est suicidé.
Ça veut dire quoi, être soi, Cécile Guilbert, vous qui avez emprunté le chemin de la drogue, mais aussi emprunté le chemin de l'écriture, et ce depuis des décennies? Est-ce que dans la drogue, on arrive à être soi, ou on croit être soi?
Ben, on est soi. C'est difficile de répondre à cette question. On peut se chercher longtemps à travers différents chemins, différentes expériences. Elles sont pas toutes négatives, elles sont pas toutes tragiques, parce que je tiens aussi à cette dimension de la curiosité, l'expérimentation. Comme disait Walter Benjamin, celui qui ne fait pas d'expérience sera toujours inconsolable, en fait. Il faut expérimenter, il faut faire les choses. Mais après, plus on se connaît, je pense que c'est ça. Il faut se connaître soi-même. C'est vraiment un précepte antique et qui reste juste, connaître soi-même et savoir comment coïncider avec sa liberté, faire coïncider sa liberté, son désir, son équilibre surtout. Et il arrive un moment où tout ça tombe comme une vieille défroque et où on coïncide avec une forme de plénitude qui ne nécessite plus aucun adjuvant. Et c'est là qu'on est peut-être vraiment libre.
Et c'est à ce moment-là que vous avez quitté les drogues.
Moi, j'ai quitté les drogues, j'ai pris toutes sortes de choses, comme beaucoup de gens, jusqu'à un âge, disons, jusqu'à 40 ans.
Bah, c'est pas mal. Ça conserve bien, manifestement.
Ce qui prouve que je n'en ai jamais abusé, vraisemblablement. Mais voilà, oui, non, mais après, on peut prendre des tas de choses qui sont pas dangereuses, parce que justement, on en reparlera, mais quand on dit les drogues, il y a bien des drogues.
Ce qui est intéressant dans votre histoire, Cécile Guilbert, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre dans cette préface à cette magnifique anthologie sur littérature et drogue, c'est que pendant longtemps vous n'avez eu cure de tout ce que vous ingériez. Vous ne craignez pas le danger, vous aviez manifestement raison parce qu'il ne vous est arrivé rien de grave, à vous, parce que dans votre entourage, oui, il y a eu des drames. Mais c'est l'amour de la littérature qui était déjà là à l'origine de votre désir de vivre qui vous a donné envie d'être pleinement vous-même, et pour être pleinement vous-même et ne pas avoir l'impression stupide que la drogue vous aidait à écrire, que vous avez arrêté la drogue pour justement vous mettre à écrire.
Oui, il y a l'amour de la littérature, mais si j'aurais plutôt envie de répondre, qu'il y a l'amour tout court, en fait. C'est l'amour tout court qui me porte. J'ai été beaucoup aimée dans ma vie, j'ai été beaucoup aimée dans ma famille, par mes amis, par les hommes qui m'ont aimée, par mon mari aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui donne de la force, c'est l'amour. Et l'amour de la littérature, bon, ça vient aussi en plus. Et je ne sais pas si vous m'avez posé une question, mais en tout cas, c'est ça qui me porte, c'est l'amour. L'amour et aussi l'amour de la vie, finalement. Parce qu'il y a des moments de mon existence où j'ai eu l'impression que je n'aimais pas la vie, que je n'y tenais pas. Et puis, en fait, certains chagrins m'ont prouvé que j'aimais vraiment la vie. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'impression vraiment de choisir la vie.
Votre mari s'appelle Nicolas. Vous avez signé plusieurs textes et plusieurs préfaces avec lui. Vous avez signé il y a quelques années un livre bouleversant qui s'intitule Réanimation. Je l'ai encore dans la tête parce que avec les mots, vous avez réussi à combler une absence de votre amoureux qui était mort mais qui était quand même vivant.
Oui. Oui, ça a été une grosse épreuve. Ça a été une épreuve, mais une épreuve intéressante, une épreuve qui m'a sur le moment passionnée. Après, qui m'a très, très fortement angoissée, parce que j'étais plutôt optimiste quand il est tombé malade, et puis ça s'est avéré très grave. Et donc, j'ai expérimenté un mode de séparation que je n'avais jamais imaginé, et puis beaucoup d'angoisse, et puis beaucoup de solitude, et puis beaucoup d'émotions contradictoires. Et j'ai dû mettre un peu tout ça à distance, et effectivement, après quelques années plus tard, j'ai écrit ce livre, Réanimation, qui était la première fois, en fait, que j'écrivais quelque chose d'aussi autobiographique. Un récit, en quelque sorte, alors que je m'étais toujours tenue soigneusement à l'écart de ce type d'écrit, en m'étant même un peu moquée de tous ceux qui se jetaient dans l'écriture autobiographique de récits dès qu'il leur arrivait quelque chose d'un peu... Ça a été une première épreuve qui a été assez forte et qui a été suivie de plusieurs autres. Et j'ai été assez secouée, en fait, toutes ces dernières années. Il se trouve que c'était aussi des années où je composais ce volume et voilà, et ce volume d'écrits stupéfiants, il est aussi le fruit d'un long chemin à travers des épreuves. Et maintenant qu'il est terminé et publié, j'en suis assez heureuse parce qu'il y a vraiment eu des moments d'arrêt et ça a été un long tunnel d'une certaine façon et aussi avec beaucoup d'éclaircies, mais quelque chose qui n'a pas été simple. J'ai aussi perdu mon frère à ce moment-là qui, comme mon cousin, je pense, était un amateur de drogue. Je n'ai jamais su quelle part avait les drogues dans son décès, qui a été plutôt accidentel, à mon avis, où il a peut-être eu un problème de santé, mais en tout cas, ça a été un moment très dur. Et j'avoue que pendant un an ou deux, je n'ai plus pu lire aucun un texte sur la drogue et je n'ai même plus pu boire avec l'heure d'alcool pendant 2 ans.
Est-ce que l'alcool est une addiction comme la drogue, selon vous, Cécile Gilbert? Vous ne l'évoquez pas, en tout cas, dans cette anthologie de...
Non, je ne l'évoque pas parce que l'alcool est effectivement une substance psychotrope qui produit des effets qu'on pourrait évidemment et que beaucoup ont rapproché de la drogue, surtout dans les débats où il est question de savoir si le tabac, l'alcool sont des substances qui sont plus dangereuses pour la santé que certaines drogues. Je pense que le tabac et surtout que l'alcool est plus dangereux que certaines drogues, ça c'est sûr. Mais il ne rentre pas dans le champ de cette anthologie parce que d'une part, il y a des limites et physique à un volume imprimé. Et puis, pour moi, c'est pas vraiment la même problématique. Parce que l'alcool, le vin, enfin tout ça, l'alcool, après, il faudrait différencier les alcools durs, le vin, c'est plutôt quelque chose pour moi qui est lié en tant que française à la gastronomie, c'est plutôt aussi un aliment, c'est pas seulement une substance psychotrope. Bref, l'alcool n'y est pas, le vin non plus, et moi l'alcool et le vin, c'est pas trop mon truc. Mais en bonne logique, il y a des substances d'ébriété, comme l'éther justement que je prenais jeune, ou d'autres substances qu'on appelle des solvants qui font partie comme l'alcool des substances qui provoquent une ivresse spécifique
et qui sont très utilisées par les très jeunes aujourd'hui.
Oui, alors ça c'est
de
très
plus en plus.
Oui, absolument.
Sont d'accès très facile.
Voilà, j'ai lu des longs articles récemment sur le retour du gaz hilarant par exemple, qui est le protoxyde d'azote, et c'est très curieux parce qu'apparemment les journalistes qui en parlent ont l'air de dire que voilà, on parle du gaz hilarant, mais le gaz hilarant, c'est une drogue qui a une très très vieille histoire et qui existe depuis très longtemps et qui a servi notamment aux poètes du grand jeu, ces fameux poètes qui vivaient à Reims dans les années 10 et qui cherchaient à travers l'absorption de substances de ce type, solvants, gaz hilarant et autres, tétrachlorure de carbone, à faire des expériences métaphysiques. C'est les seuls, d'ailleurs. C'est une drogue qui est en fait une drogue de la misère, les gaz hilarants. C'est une drogue facile d'accès, très, très, très peu coûteuse, qui provoque une sorte d'ivresse facile à prix modique et à bon compte, et qui, en général, n'a pas du tout intéressé les écrivains, sauf quelques-uns.
Le pouvoir est-il une forme de drogue, d'addiction, puisque vous êtes une spécialiste du pouvoir?
Une spécialiste, c'est beaucoup dire.
Votre premier livre qui vous avait fait singulariser, qui avait fait que votre livre a été remarqué, c'était sur Saint-Simon. Vous avez dit il y a quelques minutes que vous n'adoptiez pas, à l'intérieur de vos différents registres d'écriture, l'autobiographie, mais est paru un livre d'ailleurs qui a eu pas mal de succès il y a assez peu de temps, qui s'intitulait « Les Républicains », où j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits échos autobiographiques. Les jeunes gens huppés qui étaient sortis de Sciences Po et qui sont arrivés rapidos prestos dans les hautes instances du pouvoir, vous les avez connus.
Oui.
Et
oui.
Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels et vous en êtes parti.
Oui, c'est vrai. je ne peux le dénier. Dire que le pouvoir est une addiction, bon, c'est une façon de parler qu'on utilise assez souvent, mais alors, beaucoup de choses sont des addictions, en fait. À partir de là. Pour moi, le pouvoir, c'est plus une passion triste, pour moi. Je pense que l'autorité, c'est important, la force, c'est important, la puissance, c'est important, de caractère et autres. Bon, le pouvoir, au sens... occuper des positions de pouvoir, ça c'est plutôt pour moi une passion triste, c'est pour ça que je m'en suis éloigné. Mais elle provoque sans doute une addiction et une excitation. Une excitation, quelque chose de tellement plein, de tellement... Vous éprouvez sans doute, quand vous êtes au sommet du pouvoir, la capacité de faire les choses, de décider vraiment que vos décisions aient un effet, ce qui est... sans doute assez grisant. Une ivresse.
Aujourd'hui, c'est une journée deuil national. Comment avez-vous compris la ferveur populaire autour de la disparition de Jacques Chirac?
Disons que c'est un peu comme Johnny Hallyday, même s'il y a eu beaucoup moins de monde, me dit-on, dans les rues de Paris ou pour lui rendre hommage. C'est-à-dire que, en fait, Chirac, c'est quelqu'un avec qui on a vécu presque une grande partie de notre vie. Et donc, c'est tellement lié à notre histoire personnelle, à notre vie personnelle. Il a tellement habité notre imaginaire, nos souvenirs. Il y a des gens comme ça, des artistes qui vivent très longtemps, des hommes politiques qui ont une très grande longévité, qui fait qu'ils sont, où ils sont presque co-vivants en nous, quoi. Et donc Chirac, c'était le cas, et même si nous ne l'avons plus vu depuis très longtemps et qu'il a quitté le pouvoir il y a une douzaine d'années, en fait, c'est, je pense que les Français pleurent aussi là-dessus, pleurent sur eux-mêmes, pleurent leur passé, pleurent leur jeunesse enfuie ou leur âge mûr, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très auto-réflexif, quoi. Plus que, je ne pense pas qu'il pleure un grand homme ou qu'il pleure. Non, c'est pas ça. Il pleure quelqu'un qui les a touchés, ça c'est sûr, qui les a émus. Peut-être un des derniers politiques qui les a émus, qui avait cette forme de proximité, d'humanité, qui était pourtant un technocrate aussi à l'origine, mais qui bizarrement avait quitté sa défroque de technocrate pour devenir cette espèce de bon vivant près des autres, bienveillant. Donc je pense qu'il pleure tout ça. Peut-être la fin d'une époque, comme on dit, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, tout le monde répète cette expression un peu mécaniquement, mais c'est vrai, quoi. Il y a vraiment un changement de paradigme et qui est très marqué. C'est peut-être le dernier, parce que je pensais en fait au président de la République survivant. Je ne crois pas qu'on pleurera comme ça Valéry Giscard d'Estaing, qui était pourtant antérieur à Jacques Chirac.
Vous êtes depuis longtemps à l'intérieur des différents registres de votre écriture, Cécile Guilbert, une conceptrice du pouvoir, des mécanismes du pouvoir, aussi une observatrice de la société, et ce depuis votre Saint-Simon. Vous avez écrit aussi un texte sur Guy Debord. Pour Guy Debord, je vous propose d'écouter sa voix. Il va donner son avis sur la société. C'est une archive INA de 1978.
Une génération passe et une autre lui succède, mais la terre demeure toujours. Le soleil se lève et se couche, et il retourne d'où il était parti. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d'où ils étaient partis, pour couler encore. Toutes choses ont leur temps et tout passe sous le ciel après le terme qui lui a été prescrit. Il y a tant de tués et tant de guéris, tant d'abattre et tant de bâtir. Il y a tant de défilés et tant de rejoindre, tant de se taire et tant de parler.
Est-ce que la pensée de Guy Debord est encore opératoire aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a tellement changé de paradigme, comme vous venez de le dire? Cécile Guilbert.
Je pense qu'elle est opératoire sur certains plans et pas d'autres. C'est-à-dire qu'elle est opératoire quand il s'agit de décrire cette espèce de monde globalisé où ont fusionné les anciens systèmes autoritaires avec les systèmes démocratiques libéraux, disons, pour aller vite, hein, ce qu'il appelait le spectaculaire diffus et le spectaculaire concentré, qui a fusionné dans le spectaculaire intégré. Ça, c'est encore pertinent. En revanche, ce qui me semble beaucoup moins pertinent, c'est toute sa pensée en termes d'avant-garde, de politique, sa pensée révolutionnaire, là, me semble moins pertinente. Mais enfin, toute son analyse du spectaculaire intégré. Mais bon, c'est vrai qu'on a aussi tellement. Enfin, je ne pense pas que les variables de sa pensée soient devenues caduques dans les termes qualitatifs qui sont les siens. C'est surtout qu'on a changé quantitativement d'échelle aussi.
Oui, et puis il n'avait pas pu prévoir Internet, l'importance des réseaux sociaux et les conséquences.
Oui, mais ça, je dirais que l'Internet et la présence des réseaux sociaux, ça serait des variables, si vous voulez, qui renforceraient les aspects spéculaires de la marchandise et qu'on serait tous devenus des marchandises, après tout. C'est peut-être ça, l'évolution ultime. Mais en même temps, il y a aussi des choses qui sont périmées en termes d'aliénation, toute cette pensée de cette réflexion en termes d'aliénation, je ne crois plus que ça soit exactement ça.
Parce qu'on est passé à une ère de l'individualisme absolu.
Oui, et puis que les gens sont à la fois manipulables, mais en même temps ils sont moins dupes. C'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que sur certains plans, on a l'impression que les gens sont devenus plus éduqués quand même, moins dupes d'un certain nombre de choses, de mécanismes concernant la consommation, la marchandise, tout ce qui était des substances et des termes analysés par Guy Debord. Et en même temps, ils sont crédules aussi, plus crédules peut-être, ils se laissent manipuler à plus grande échelle par toutes sortes de les fake news, ils sont à la fois plus éduqués, mais en même temps moins. Enfin, c'est très compliqué. C'est difficile de. Ils sont moins cultivés. En même temps, ils ont des moyens de culture comme jamais. C'est très compliqué. C'est vrai, on a accès à tout. On peut, voilà, avoir accès à tout. L'archive humaine, la culture humaine est disponible comme jamais. Et en même temps, est-ce qu'elle est vraiment disponible? Je ne sais pas.
Vous avez écrit aussi un texte magnifique sur Andy Warhol. Est-ce que ce texte a été précédé par votre vie à New York? Et pourquoi êtes-vous partie à New York? Et qu'en avez-vous retiré, Cécile Gilbert?
Non, en fait, quand je suis partie à New York, j'avais envie de changer un peu d'air. J'avais fini mes études en France, à Paris. On était au mi-temps des années 80. Et j'avais envie, j'étais jamais allé aux États-Unis et New York semblait une ville comme ça fascinante, j'avais envie d'y aller. Et donc j'y suis allé prétextant que j'allais perfectionner mon anglais. Mon intérêt pour Warhol ne vient absolument pas de là, puisque à l'époque, déjà je me souviens, c'était juste avant la mort de Basquiat. Il y avait encore ce côté comme ça un peu warholien de certains lieux, de certains. Mais en fait, moi, c'était plutôt les gens qui m'arrivaient de croiser dans les endroits un peu à la mode à New York, c'était plutôt Bret Easton Ellis, c'était plutôt ces nouveaux écrivains, Youpi, un peu glamour, Jay McInerney, tout ça. Warhol, bon, m'intéressait pas. Et en fait, le livre que j'ai écrit sur Warhol, honnêtement, n'est bon. Évidemment, obligé de reprendre un certain nombre d'éléments de la vie de Warhol, mais c'est pas la biographie de Warhol qui m'intéressait énormément, ni même son œuvre. C'était plutôt sa personnalité et plutôt sa spiritualité, s'il en avait une, en fait. Et je pense qu'il en avait une, mais très, très curieuse, et qui n'avait pas été perçue jusque-là, à mon avis, et qu'on pouvait percevoir, non pas, certes, en regardant certaines de ses œuvres, en les analysant, mais surtout en analysant son verbe, sa parole, qui avait toujours été dévalorisée, démonétisée, et il avait toujours été considéré comme un idiot. Alors que moi, j'essayais de le voir un peu plutôt comme un sage oriental, plutôt un sage taoïste, et ce qui m'intéressait, c'était cette équilibre qu'il avait en jouant de certaines forces du négatif, du positif, sans basculer de l'une ou de l'autre, et en fait de se maintenir sur un courant énergétique où il faisait à la fois le vide autour de lui et il ne confondait pas le vide et la vacuité.
Aujourd'hui, il est magnifié, des expositions à travers le monde nous permettent de découvrir des pans insoupçonnés de sa créativité, notamment quand il était illustrateur de presse. Et j'espère que des expositions qui ont eu lieu à New York l'an dernier vont pouvoir venir à Paris. Aujourd'hui, le nom de Andy Warhol, et c'est ce qu'il souhaitait, est connu d'un grand nombre de personnes à travers le monde. Est-ce que sa manière de répéter et de dupliquer est une manière qui est intégrée aujourd'hui dans nos cerveaux, à chacun, à chacune d'entre nous, sa minute de célébrité? Est-ce que chacune pour soi, chacun pour soi. Est-ce qu'il a gagné, Andy Warhol, dans cette lutte pour l'imaginaire, selon vous?
Je ne sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, il est le père de beaucoup d'artistes, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'épigones, en fait, warholiens. Je crois qu'il était en avance. En fait, il était en avance sur notre temps, puisque déjà, de son vivant, il enregistrait tout. Il avait des petits appareils photo, il prenait tout le monde en photo, exactement comme les gens en font aujourd'hui avec leur téléphone portable. Il enregistrait, il dupliquait.
Il filmait.
Il filmait, il manipulait. Bon, c'était une sorte de petite usine portative audiovisuelle, en fait. Donc je pense qu'il se sera à la fois amusé de ce qui advient, de ce qui est advenu aujourd'hui, mais en même temps, ce qui est advenu aujourd'hui ne fait que, disons, densifier, renforcer quelque chose que lui avait déjà expérimenté. Donc il se serait peut-être beaucoup ennuyé aujourd'hui en disant qu'il avait déjà tout fait. En tout cas, beaucoup d'artistes sont ces épigones dans la mesure où on reprenne ces procédures et que de toute façon, la commercialisation de l'art et l'esthétisation de la vie quotidienne tous azimuts, oui, là, a triomphé.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Cécile Gilbert. Attention, c'est les Sex Pistols.
I am an Antichrist. I am a
Il est 6h du matin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas le genre de type à traîner dans un endroit pareil à une heure aussi tardive, et pourtant tu es là sans pouvoir prétendre que le lieu te soit étranger, même si les détails manquent de netteté. Te voilà même en grande conversation avec une fille au crâne rasé dans une boîte que tu connais sans vraiment savoir laquelle. Tout pourrait s'éclaircir si tu filais sniffer un peu de poudre tonique bolivienne aux toilettes, à moins qu'au lieu de s'éclaircir, tout se brouille un peu plus, car une petite voix intérieure te dit que si tu n'avais pas déjà forcé la dose, tu ne souffrirais peut-être pas de cette confusion chronique. La nuit a d'ores et déjà basculé sur quelque imperceptible pivot. De 2h du matin, te voilà subitement à 6. Je viens de lire un extrait de votre monumentale anthologie, Cécile Guilbert, consacrée aux drogues, ou plutôt à la littérature et à la drogue et à ses noces. Et là, c'est un extrait de Jay McInerney, dont vous venez de parler tout à l'heure. C'est un auteur qui est né en 1955, dont a été publié Journal d'un oiseau de nuit. Et ce texte est très intéressant. D'abord parce que vous mélangez les âges, vous commencez à Homère, et vous terminez par Jay McInerney ou par Will Self. Donc des auteurs vivants et des auteurs depuis la haute antiquité. Ce texte est très intéressant aussi parce qu'il donne une sensation de proximité. On sait qu'on est drogué, il le dit, il l'écrit magnifiquement. En même temps, il a conscience qu'il est au monde, mais qu'il est ailleurs, peut-être dans un autre monde. Et aussi, dans ce court texte que je viens d'essayer de lire, il y a aussi la présence de la nuit qui se suspend grâce à la drogue.
Oui, alors McInerney, oui, la nuit se suspend grâce à la drogue, mais elle s'amplifie aussi, elle s'intensifie. Et bon, il faut dire au lecteur ou à l'auditeur qui ne connaîtrait pas très bien McInerney et le texte auquel il est fait référence, que là on est dans un univers qui est à mon avis le moins intéressant finalement des drogues psychotropes, hein, puisqu'on est dans l'univers de la cocaïne, on est dans ce moment des années 80 à New York où il y a cette nouvelle vogue des auteurs qui sortent en boîte de nuit avec des mannequins et bourrés de cocaïne. Et en fait, la cocaïne, historiquement, elle n'a jamais produit des textes très riches en matière d'analyse des sensations en fait, liées aux drogues. Ça, moi, ça m'a frappé, puisque justement, dans cette anthologie, j'ai fait un classement par type de drogue, spécifiquement pour voir ce qui avait réussi aux écrivains, quelles drogues ils avaient lues de manière privilégiée, pourquoi certains genres littéraires finalement m'apparaissaient liés à certaines drogues et pas à d'autres. On pouvait raffiner à l'infini entre les écrivains qui ont été tellement drogués, qui n'ont jamais écrit une ligne sur la drogue, ceux qui ont énormément écrit sur toutes les drogues, mais qui n'étaient pas des drogués. Je pense à des grands expérimentateurs, hein, comme Michaud, Junger, Walter Benjamin. Ce n'est pas des drogués, c'est des gens qui ont expérimenté des drogues. Certaines drogues, justement, pas les psychostimulants, pas la cocaïne. Pourquoi certaines drogues provoquent des addictions, pas d'autres? Est-ce que ça induit aussi dans l'attitude de ces auteurs, quand vous prenez quelque chose pour justement un peu mieux comprendre votre conscience, comment elle peut s'élargir, se modifier, comment fonctionne votre esprit, les associations d'idées, etc. C'est sûr que le produit que vous allez prendre va beaucoup influencer tout ça, et donc on ne peut pas tout mélanger, mettre dans le même sac, toutes ces substances. C'est pour ça qu'il faut absolument bannir le terme de la drogue, qui est un terme qui vient de l'État, en fait, et qui est le terme qui sert à tout mettre dans le même sac pour tout interdire sans différenciation, alors qu'il faut dire les drogues, parce qu'il y en a de très, très variés.
Je vous propose d'écouter Françoise Sagan, que vous citez abondamment, qui n'a jamais caché qu'elle s'était droguée. Elle a commencé à se droguer d'ailleurs à la suite des très grandes souffrances dues à l'accident de voiture qu'elle a eu quand elle était assez jeune. Écoutez donc Françoise Sagan à propos de la tentation de la drogue pour les artistes. C'est une archive INA du 26 juin 1987.
Ça dépend qui des choses comme l'alcool ou la drogue, quand ce sont des gens comme des jeunes gens qu'on promule, qu'on jette plus que moi en pâture, là, qui sont devenus des idoles du jour au lendemain, il y a d'abord un milieu qui est un milieu de drogue, d'alcool, etc. Pour ce qui est des artistes, enfin, des gens qui ont une sensibilité un peu plus accrue que les gens d'ordinaire, puisqu'ils sont créateur, donc ça veut dire être vulnérable par certains côtés. Il est normal qu'on devait interposer une espèce de voile, enfin de tampon entre la vie et soi. Alors ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être une espèce de palliatif qui comme un coton, comme une ouate entre la vie et les accoups, et les coups de la vie. Ça s'explique aussi. Mais je crois pas que ce soit automatique. Je veux dire, il y a des gens qui le succès est une chose qu'il faut prendre bien, qu'on peut prendre bien ou qu'on peut prendre mal. Il y a des gens qui le prennent très mal parce que le succès a un côté qui vous isole. L'histoire de Dalida, une histoire très horriblement sinistre pour ça, parce qu'il y a un moment où les gens les gens vous voient comme une image, et puis il n'y a pas de véritable. Si on n'a pas justement une grande ressource, une grande force intérieure pour avoir avec les gens des vrais rapports, pour obliger les gens à chercher autre chose chez vous, parce que cette image qu'ils ont dans la tête, si on n'oblige pas les gens à être vos amis, si vous voulez, pour de bon, on peut être très seul avec une statue de vous qui vit à votre place. Et on se retrouve seul chez soi et pompe.
Commentaire, Cécile Guilbert.
C'est intéressant que Françoise Sagan, finalement, se compare à Dalida, parce que c'est pas cette comparaison qui pourrait faire rire qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle a une célébrité anormale, peut-être, pour un écrivain.
Et très jeune.
Et très jeune, elle a une célébrité de pop star, en fait. Et donc, elle est très, effectivement, vulnérable et très exposée. En général, les écrivains ont des célébrités, disons, raisonnables. Mais certains ont des célébrités déraisonnables, comme Bret Easton Ellis, par exemple. C'est un véritable phénomène de foire planétaire qui s'est beaucoup drogué. Donc je trouve intéressant qu'elle se compare à Dalida. Mais elle illustre très bien le cas des écrivains qui sont rentrés dans la drogue par justement la douleur physique, la souffrance physique. Et après, effectivement, sur certains types de drogues, morphine, etc., oui, ça crée une dépendance et puis ça crée une addiction dont elle s'est jamais trop déprise.
Alors vous expliquez dans cette anthologie, Cécile Guilbert, qu'il y a des chemins individuels vers la drogue, l'accoutumance pour certains de certaines drogues, et il y a aussi des mouvements collectifs. Et l'histoire de la littérature et l'histoire de la consommation de certaines drogues, c'est vraiment extraordinaire ce que vous nous racontez. Notamment, bon, par exemple, la présence de l'héroïne à Paris dans l'entre-deux-guerres. Vous avez évoqué tout à l'heure le grand jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des cercles littéraires qui étaient soudés, reliés par une certaine consommation de certaines drogues.
Oui, alors il y a le phénomène de la bohème, disons la bohème artistique, c'est un phénomène ancien qui commence presque au début du romantisme, en fait, qui est le début aussi de l'exploration de l'imaginaire des drogues en France et en Angleterre. Bon. Et cette bohème littéraire, cette bohème artistique où se croisent à la fois des écrivains, des artistes, des musiciens, elle perdure assez longtemps, elle perdure. On la voit sous la Belle Époque, dans la France fin de siècle, sous la Belle Époque, dans l'entre-deux-guerres. Les drogues changent, les législations changent, elles deviennent plus répressives, mais il existe toujours ce phénomène où on peut dire que, à part quelques voyous, dépravés, gens de mauvaise vie, interlopes, etc., ce sont les artistes aussi qui prennent des drogues. Mais si vous voulez, la drogue n'est pas devenue ce phénomène de masse qui contamine la jeunesse comme ça va le faire après-guerre.
Ce sont des cercles.
Voilà, ce sont des cercles. Les fumeries sont plus ou moins clandestines. De toute façon, c'est beaucoup moins... Certes, c'est réprimé, mais si vous voulez, c'est pas réprimé comme c'est aujourd'hui réprimé. Des drogues font leurs apparitions. Dans les années 20, par exemple, la cocaïne fait son apparition. Voilà, il y a des phénomènes de mode aussi. C'est lié à des phénomènes de mode. Les écrivains et les artistes sont pas hors sol. Ils vivent dans un contexte géographique, historique. On prend certaines drogues à Paris, par exemple. Dans l'entre-deux-guerres à Paris, c'est quasiment impossible de fumer du haschich, alors que on trouve du haschich avec les romantiques. Vous voyez, c'est curieux, ça. Dans les années 20, on trouve de la cocaïne dans certains milieux. Et puis la cocaïne va muter dans les années 80 du 20e siècle, va devenir une drogue. Et il y a des mutations aussi des produits. Ils n'ont pas la même réputation, ils ne sont pas consommés par les mêmes milieux socio-professionnels ou sociaux, etc. Le crack, c'est une drogue dérivée de la cocaïne, mais si vous voulez, qui a toujours été la drogue de la misère, des ghettos. Et puis parfois, vous avez un individu qui appartient pas du tout à ce milieu, qui en prend, et ça donne un texte très beau, je pense à Annie Clegg. Annie Clegg. Et puis, donc il y a toutes ces mutations qui sont à l'œuvre, tous ces changements de paradigme des drogues, influencés par la chimie, par des tas de choses. Et puis il y a les drogues un peu comme ça, qu'on prend depuis toujours, des plantes en Amérique du Sud, et ça c'est encore autre chose.
Alors, vous explorez beaucoup le territoire américain. Il faut dire que celui-ci a été fécond en imaginaire des noces entre les drogues et la littérature. Vous m'avez fait découvrir les hashishines américains qui ont sévi pendant pas mal de temps au 19e siècle et qui ont été aussi très inventifs. Et puis, vous restituez avec beaucoup de gourmandise un homme qui est resté dans nos mémoires. Vous évoquiez Andy Warhol, il a été lié à ces mouvements-là, il a inventé une forme de poésie, il a inventé une forme de performance, il était à la fois entre la poésie, le théâtre, l'intervention publique, l'intervention poétique. Je veux parler d'Allen Ginsberg. Allen Ginsberg a été un pape de la culture américaine, notamment dans les années 70-80, quand il venait souvent en France. Je vous propose de l'écouter.
Oui, oui, ne fumez pas. Oui.
On ne fume pas la pioté, on mange, mais le kiff, oui. Bon kiff sans tabac.
Oui.
De temps en temps. Pourquoi? C'est bien pour examiner un texte au retour, pour révision. Pour composition, non, mais pour autre angle. À voir le texte. Oui, c'est différent, tête différente. No, I said for revising.
Non, j'ai dit simplement pour revoir un texte.
Ah.
Pour méditation, il n'y a rien nécessaire que l'air pur.
La drogue a beaucoup compté dans la Beat Generation.
They were not a major part.
Non, ce n'était pas le principal. Le principal, c'était la méditation et l'expansion de l'esprit bouddhiste, qui était tout aussi importante. Vous avez un stéréotype concernant la Beat Generation, venu de la presse, que je critique. Et moi, je dois accentuer plutôt que cela le point de vue de l'expansion de l'esprit et de la méditation bouddhisme de Kerouac et des autres, et de moi-même.
Aujourd'hui, y a-t-il des papes comme Allen Ginsberg, aussi puissants intellectuellement et poétiquement, qui aient pratiqué ces noces entre les drogues et la littérature, et la méditation, comme il vient de le dire?
Je ne crois pas, parce que je pense que l'exploration littéraire de la drogue et ou poétique, hein, mais quand je dis littéraire, c'est aussi poétique, et bien sûr, est fort close, en fait, d'une certaine façon.
Ah bon, c'est la fin d'un cycle.
C'est la fin d'un cycle, c'est la fin peut-être d'un émerveillement, c'est peut-être la fin de le continent et peut-être voilà, il y a plus aucune terra incognita et en tout cas les drogues qui sont inventées aujourd'hui ne sont pas goûtées par des écrivains contemporains ou ceux-ci n'éprouvent pas le besoin d'écrire à leurs propos ou
Et pourquoi, à votre avis? Parce que cette absence de sacralisation de la drogue qui a été tellement importante depuis le romantisme jusqu'à il y a 20 ans.
Ben d'abord, la drogue reine qui était l'opium et qui était si merveilleuse pour les écrivains, leur imaginaire, leur vie intérieure, leur l'esthétisation de tout ça, c'est très difficile d'en fumer. Il n'y a pas plus de fumerie, il n'y a pas d'opium. Donc ça, c'est cette drogue-là. Le cannabis, qui était une autre drogue reine, en fait, a été complètement banalisé. Et je pense pas que... Ou peut-être qu'il la virera en qualité, ou peut-être qu'après tout... Plus personne, c'est comme si vous buvez un verre d'alcool, vous n'allez pas avoir envie forcément de décrire les sensations que ça vous procure. Le cannabis, on en a fait le tour, littérairement parlant, et les jeunes le vivent comme quelque chose d'extrêmement trivial et commun. Et je vous dis, les drogues nouvelles sont plutôt des psychostimulants, et en général, les psychostimulants donnent moins accès à cette exploration littéraire.
Et à l'imaginaire aussi.
Et à l'imaginaire aussi. Mais ceci étant, des gens vont peut-être faire le chemin qu'a fait Ginsberg, finalement, de se détacher de toutes les drogues pour aller vers la recherche de soi et et d'une forme de spiritualité, parce que c'est aussi lié à cette recherche. Moi, j'aime beaucoup Ginsberg, parce que justement, je trouve que c'est quelqu'un de bon, qui a fait toutes sortes d'expériences, y compris avec des drogues dangereuses, mais qui préférait des drogues psychédéliques, et qui, à un moment, voilà, les a abandonnées. En fait, il était plus porté par l'amour, la méditation, et par quelque chose d'un sentiment cosmique. Il n'avait plus besoin des drogues. Et elle a tort, cette journaliste, de poser la question sur la Beat Generation, parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Burroughs, qui est un vrai junkie, un Kerouac qui écrit ses livres sous amphétamine, sans écrire forcément sur les drogues, et un Ginsberg qui en a beaucoup essayé, qui les aimait bien, c'est un peu un toxicophile, mais certainement pas un toxicomane.
Dernière question, Cécile Gilbert. Je vais vous poser la question qu'Henri Michaud posait à Jean Paulhan dans une lettre le 24 août 1956 et que vous citez en exergue de votre monumentale anthologie. Quelle drogue prendre pour rendre l'écriture facile?
Le sommeil. Le sommeil et essayer de se reconstituer de l'énergie. Je pense que c'est ça qui rend l'écriture facile.
Eh bien, merci beaucoup, Cécile Gilbert. En tout cas, vous ne vous endormirez pas, vous, les auditrices et les auditeurs, si vous lisez cette monumentale anthologie qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont et qui fait combien ? 1400 pages. Elle s'intitule « Écrit stupéfiant, drogue au pluriel et littérature, d'Homère à Will Self ». Merci infiniment, Cécile Gilbert.
Merci.
Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
Préciser que Cécile Gilbert, votre livre n'est en aucune façon une apologie de la drogue, que vous parlez en scientifique, en enquêtrice des conséquences nocives des drogues en général, et à la fin de votre préface, vous dites, je vous cite, « L'heure est plutôt au repli intérieur, aux conversations choisies, à l'aventure de la liberté libre qui augmente les forces au lieu de les déliter ». Merci encore infiniment, Cécile Gilbert.